Le fonctionnement de notre système de droit criminel, des fois, ça peut prêter à confusion. Hein? Il y a différentes procédures, étapes à comprendre. C'est quand même normal, là, des fois, de s'y perdre un petit peu, de ne pas réussir à s'y retrouver complètement. Et aujourd'hui, on va débuter par le tout début du processus criminel avec Sophia Issaoui, étudiante en droit au Centre de justice de proximité de l'Outaouais. Sophia, bonjour.
Bonjour Sébastien.
Et je dis tout début parce que tu vas nous parler des arrestations et de la détention criminelle. Dans quelles circonstances est-ce que la police peut procéder à une arrestation?
Alors, il y a plusieurs circonstances qui peuvent motiver une arrestation. Il y a des arrestations qui doivent être faites avec mandat, puis d'autres sans mandat. Et elles sont faites lorsqu'il existe des motifs raisonnables de croire que la personne a commis un acte criminel ou qu'elle est sur le point de commettre un acte criminel. Et lorsqu'il y a des motifs aussi raisonnables de croire qu'un juge a ordonné l'arrestation d'une personne et donc avec un mandat d'arrêt. Ainsi, les motifs raisonnables de croire d'un policier doivent être plus que des soupçons. Ils doivent être à la fois objectifs, subjectifs et aussi raisonnablement justifiables.
Puis c'est quoi les droits d'une personne là, quand elle est arrêtée par la police au Canada?
Alors, lorsqu'une personne est arrêtée ou détenue, elle a le droit immédiat de savoir pourquoi et de quoi elle est accusée. Elle a également le droit de parler à un avocat pour obtenir des conseils et de l'aide, et notamment pour connaître les prochaines étapes de son arrestation. Les policiers doivent l'informer des possibilités qui s'offrent à elle, comme l'aide juridique et les services d'avocat de garde qui sont disponibles gratuitement, si nécessaire. Les policiers doivent donc tout mettre en œuvre pour que l'individu puisse communiquer avec un avocat. Ils peuvent lui fournir un téléphone s'ils jugent qu'il ne peut pas utiliser son propre cellulaire, et ils peuvent lui fournir un endroit confidentiel pour communiquer avec l'avocat en question. En plus, la police doit informer la personne de son droit de garder le silence et elle ne doit pas l'interroger ni recueillir d'informations avant qu'elle n'ait eu l'occasion de parler à un avocat. Si l'avocat n'est pas disponible, la personne doit lui permettre d'en contacter un autre et c'est seulement après avoir consulté l'avocat la première fois que les policiers ont le droit de continuer à interroger l'accusé.
Puis quelles sont les lois, les réglementations concernant la fouille et la saisie au pays?
Alors, la loi canadienne protège les individus contre la fouille et la saisie abusive. Donc, lors de la détention ou de l'arrestation, on dit qu'une fouille est abusive si elle résulte d'une arrestation qui est illégale. Mm-hmm. Les policiers doivent donc avoir des objectifs valables afin de procéder autant à l'arrestation qu'à la fouille. Puis, parmi les objectifs qu'on peut considérer comme étant valables, on peut mentionner la protection de la sécurité des policiers ou du public, ou encore la conservation ou la découverte d'éléments de preuve. Mais dans tous les cas, les policiers doivent avoir un motif raisonnable pour croire qu'ils ont des chances de trouver de la preuve liée à l'infraction. Et ils doivent prendre en compte la totalité des circonstances afin de pouvoir juger de la nécessité de la fouille, qui est accessoire à l'arrestation commise. Mais il faut aussi savoir que les policiers peuvent effectuer une fouille sans détention. S'ils ont des motifs raisonnables de croire qu'il y a une menace imminente à la sécurité du public ou des policiers et que la fouille est nécessaire. Et donc, ce qui rend la fouille sans détention différente de la fouille avec détention, c'est que celle sans détention doit se faire uniquement en présence d'un enjeu de sécurité.
Okay.
Maintenant, concernant la saisie, lors d'une arrestation ou d'une détention, les policiers peuvent faire une saisie d'éléments lorsque ces éléments sont bien en vue ou quand la saisie ne constitue pas une atteinte à la vie privée de l'individu. Donc, si la saisie ou la fouille peuvent porter atteinte à la vie privée de la personne, la police aura besoin d'un mandat.
Puis c'est quoi les obligations des policiers dans un cas d'arrestation?
Alors, il faut savoir qu'il y a un code de déontologie. Donc, le code de déontologie des policiers indique aux policiers qu'ils doivent agir de manière à ce que les gens leur fassent confiance et les respectent en raison de leurs fonctions essentielles. En résumé, le code sert à réglementer la conduite des policiers et il définit les comportements qui sont considérés comme inappropriés et inacceptables. Ça inclut entre autres l'utilisation d'un langage offensant, les remarques irrespectueuses fondées sur diverses caractéristiques, le refus de s'identifier, le fait de ne pas porter de pièce d'identité requise, l'abus de pouvoir, puis aussi le non-respect de la loi en termes d'arrestation ou de détention. C'est qu'un policier qui abuse de son autorité commet un acte qui est interdit par le code de déontologie des policiers. Et parmi ces abus, on peut mentionner le recours à une force plus grande que celle qui est nécessaire, le recours à des menaces, de l'intimidation ou du harcèlement, mais aussi le fait de porter intentionnellement et sans justification des accusations contre une personne, puis d'abuser de son autorité en vue d'obtenir une déclaration ou un aveu, ou encore de détenir, d'interroger une personne qui n'est pas en état d'arrestation.
Maintenant, quels sont les droits des détenus qui sont mineurs? Puis, ben, comment est-ce qu'ils diffèrent là, de ceux des adultes?
Donc, il faut savoir que lorsqu'un adolescent est soupçonné d'un crime, il est traité légèrement différemment qu'un adulte. Donc, bien entendu, la loi attend d'eux qu'ils assument la responsabilité de leurs actes, mais la loi vise également à les aider à réintégrer la société tout en impliquant leurs parents dans le processus. Puis c'est pour cela que lorsqu'un adolescent est arrêté ou détenu sous garde, il est primordial d'aviser les parents ou le tuteur légal par écrit ou par voie orale. Maintenant, en ce qui concerne ses droits, l'adolescent exerce le même droit qu'un adulte de savoir les raisons de son arrestation et d'avoir accès à un avocat. Puis les policiers se doivent d'utiliser un langage qui est en mesure que l'adolescent, l'enfant, est en mesure de comprendre. Mmh. Ils peuvent dire à l'adolescent qu'il a le droit de parler à un avocat, à ses parents ou encore à un autre adulte. Puis si l'adolescent le souhaite, c'est que s'il souhaite faire une déclaration, il doit le faire en présence de son avocat ou de la personne à qui il a choisi de parler, à moins qu'il n'en décide autrement. Puis cette décision, elle doit être enregistrée également.
OK.
Puis pour finir, le policier doit également expliquer au mineur que s'il est assez âgé, il pourrait subir les mêmes conséquences légales qu'un adulte.
Qu'est-ce qui se passe après l'arrestation d'une personne qui est accusée ou criminelle?
Alors, en règle générale, les personnes accusées d'un crime sont autorisées à attendre leur procès en étant en liberté. Cependant, dans certaines circonstances, si la police a des craintes au sujet de la remise en liberté de l'accusé, peu importe s'il est majeur ou mineur, l'accusé pourra être détenu jusqu'à sa comparution, dans le fond, devant un tribunal. Mmh. C'est ce qu'on appelle une audience sur la libération sous caution ou encore une audience de remise en liberté. Puis elle doit avoir lieu dans les 24 heures qui suivent l'arrestation ou idéalement dès que possible.
Okay.
Mais ce qu'il faut retenir de tout ça, c'est que cette audience de remise en liberté, elle constitue pas le procès en lui-même. Et donc, le juge n'aura pas à se prononcer sur la culpabilité ou sur l'innocence de l'accusé.
Qu'est-ce qu'est maintenant la détention provisoire? Puis dans quelles circonstances est-ce qu'elle peut être prolongée?
Alors, la détention provisoire est attribuée lors de la comparution à l'audience pour remise en liberté. C'est que lorsque le juge décide de ne pas libérer l'accusé, donc de le garder en détention tout au long du procès, c'est que pour que la décision de la mise en détention provisoire soit donnée, la couronne doit fournir les raisons pour lesquelles l'accusé devrait être maintenu et détenu provisoirement.
Okay.
Ça va être à un juge de paix de décider s'il libère l'accusé ou s'il le maintient en détention. C'est que dans ce scénario, il n'y aurait que deux raisons pour justifier de ne pas libérer un accusé. La première, c'est lorsque la détention est nécessaire pour assurer la présence de l'accusé au tribunal. Puis la seconde, c'est parce que la libération serait préjudiciable à l'intérêt public ou à l'administration de la justice.
C'est quoi les types de mise en liberté? Parce qu'il y en a différents, je pense.
Alors, il existe deux types de mise en liberté. D'abord, la mise en liberté extrajudiciaire et puis ensuite la mise en liberté judiciaire. Fait que pour commencer, la mise en liberté extrajudiciaire, c'est la mise en liberté dans l'attente d'un procès.
Okay.
C'est qu'elle s'exerce elle-même sous trois formes. On a la mise en liberté par le biais d'une mise en sommation. Ensuite, on a la mise en liberté par le biais d'une citation à comparaître. Et enfin, on a la mise en liberté sous promesse de comparaître. C'est pour expliquer la différence. Mm-hmm. Donc, pour ce qui en est de la mise en sommation, c'est une ordonnance émise par un juge qui oblige un accusé inculpé d'une infraction criminelle à comparaître devant le tribunal. Puis ensuite, on a aussi la citation à comparaître, qui est également un document émis pour obliger un accusé à se présenter au tribunal, mais cette fois-ci, il est émis par un policier.
Okay.
Et pour finir, on a la promesse de comparaître, qui est un document émis par un policier et signé par l'accusé, dans lequel il s'engage à se présenter devant le tribunal.
Okay.
Ensuite, pour ce qui en est de la mise en liberté judiciaire, elle est donnée suite à une décision prise par le juge lors de la comparution durant l'audience pour libération sous caution, dont on a parlé un peu plus tôt. Cette mise en liberté judiciaire peut non seulement être donnée sans condition, ce qui veut dire que l'accusé peut demeurer en liberté totale jusqu'à ce qu'il y ait une décision concernant son accusation criminelle, mm-hmm. mais elle peut également être assortie de conditions qui sont classées en fonction du degré de restriction de la liberté de l'accusé.
Maintenant, Sophie, est-ce que tu pourrais, en terminant, nous donner quelques exemples de conditions qui pourraient être imposées par un juge?
Oui, donc on peut citer l'exemple de l'interdiction de communiquer avec certaines personnes ou de fréquenter certains lieux, mais aussi l'interdiction de, par exemple, consommer de l'alcool ou des drogues ou encore l'interdiction de quitter le territoire national. Mmh. Puis finalement, si l'accusé ne respecte pas ces conditions, il peut être arrêté et être remis en détention jusqu'au procès. tout en étant accusé de ce qu'on appelle un bris de condition, qui est en lui-même une infraction criminelle passible d'emprisonnement maximal de 2 ans.
Et si nos auditeurs ont des questions sur ce sujet ou d'autres sujets, ou si on veut en savoir plus, comment est-ce qu'on fait?
Ben, ils peuvent toujours nous contacter au CJPO et ils peuvent nous joindre par téléphone au 819-600-4600. Je répète, 819-600-4600. Puis vous pouvez aussi nous suivre sur Facebook, Instagram et TikTok. Je vous rappelle que le service est gratuit pour tous, peu importe vos revenus.
Sophia Issaoui, étudiante en droit au Centre de justice de proximité de l'Outaouais, un grand merci pour ces informations aujourd'hui.
Merci à toi, Sébastien.